Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi que vous soyez assez nombreux là pour cette conférence donc, qui va être donnée par Gwendal Fèvre. Gwendal Fèvre donc, est professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Il effectue ses recherches au laboratoire Pierre et Grin du département de physique de l'École normale supérieure et plus spécialement dans l'équipe propriété optique, si je ne me trompe pas, et électronique des nano-objets. Qui a un rapport direct d'ailleurs avec le sujet de cette conférence de ce soir, donc électronique quantique dans les nanoconducteurs. Donc vous allez entendre parler de mécanique quantique, un sujet que vous commencez à aborder justement dans les premières années de classe préparatoire et d'université. Voilà Gwendal, donc je te passe la parole.
Merci beaucoup Patrick pour cette présentation et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. D'habitude, on présente ses travaux devant une audience assez restreinte de spécialistes du domaine et c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de s'adresser à un public de spécialistes mais un peu plus large. Donc c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir faire cette présentation ce soir. Alors je vais vous parler donc d'électronique quantique. Donc tout d'abord électronique, il va s'agir d'étudier le transport d'électrons, le transport du courant électrique dans la matière solide, dans un conducteur. Et on va regarder ce qui se passe quand les propriétés de transport de ces électrons sont dominées et gouvernées par la physique quantique. Et ça va s'opposer au transport dit classique, dans lequel les électrons sont décrits comme des billes chargées et entrent en collision avec les impuretés, par exemple, du conducteur dans lequel ils se propagent. Donc on va opposer cette description au corpusculaire classique à une description quantique dans laquelle, en fait, les électrons vont adopter plutôt un comportement ondulatoire et on va avoir énormément d'analogie avec l'optique. Donc on va parler un peu d'une optique électronique pour décrire le transport du courant dans ces conducteurs. Alors, je vous ai mis là deux images illustratives qui vont s'éclairer, je l'espère, dans la suite de l'exposé, qui représentent les dispositifs qu'on étudie dans notre laboratoire. En particulier, à la fin de l'exposé, je parlerai de ce dispositif qui permet d'aller sonder le transport du courant à l'échelle ultime, dans laquelle on émet, grâce à ce dispositif, un seul électron, donc une seule particule quantique dans le conducteur, et on regarde comment elle se propage dans ce circuit électrique. Alors, avant de commencer l'exposé, je voudrais juste vous montrer que la recherche, en général, et en physique en particulier, c'est une aventure collective. Donc autour d'un groupe, donc qui sont les groupes de gens qui travaillent ici dans notre laboratoire sur ces expériences, donc un groupe de chercheurs permanents, qui sont soit universitaires comme moi, soit chercheurs au CNRS, et que y a les plus jeunes, les doctorants ou post-doctorants, qui jouent un rôle crucial dans le développement de ces expériences, et les expériences que je vais vous montrer au laboratoire ont été réalisées par un ou plusieurs de ces doctorants ou post-doctorants. Alors, donc on va parler de mécanique quantique, et autour d'une notion qui est souvent attachée à la mécanique quantique, qui est la dualité onde-corpuscule. Donc c'est l'idée que, selon la manière dont on regarde un objet quantique, on va voir se manifester plutôt un comportement ondulatoire ou plutôt un comportement corpusculaire. Et ça a d'abord été illustré par l'optique, l'étude de la propagation de la lumière, avec, au XIXe siècle, un grand succès de la théorie ondulatoire, donc la description de la lumière comme la propagation d'une onde électromagnétique, notamment par les équations de Maxwell, par Maxwell, dont vous avez dû entendre parler, ce qui permet d'expliquer très bien tous les phénomènes dits de diffraction ou d'interférence des ondes lumineuses. Néanmoins, au début du XXe siècle, il y a un certain nombre d'expériences que j'ai listées ici, donc le rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique, qui ne sont pas expliquées par cette description ondulatoire, et pour lequel il faut changer de description, et plutôt décrire la lumière comme constituée de corpuscules, de grains élémentaires, qui sont les photons, et dont chacun va porter une énergie, un quantum d'énergie, qui est relié à la fréquence de l'onde lumineuse nu, et à la constante de Planck H, donc E égale H nu. Et à chaque fois qu'on verra apparaître cette constante de Planck H, c'est vraiment la signature que la mécanique quantique joue un rôle. Et donc, cette description maintenant corpusculaire, qui va donner naissance au XXe siècle à la mécanique quantique, permet d'expliquer, par exemple, le rayonnement du corps noir ou l'effet photoélectrique. Ça, c'est pour la lumière, donc cette histoire commence avec la description de la lumière, mais c'est généralisé ensuite par De Broglie aux particules matérielles qui peuvent, elles aussi, manifester un comportement ondulatoire, et ça, c'est traduit par la relation de De Broglie qui associe à la quantité de mouvement d'une particule, donc c'est le produit de la masse fois sa vitesse, une longueur d'onde, donc une description ondulatoire, via à nouveau la constante de Planck. Donc, la lumière ou les corpuscules matériels peuvent manifester un comportement soit ondulatoire, soit corpusculaire. Alors ça, on peut l'illustrer par des expériences, en optique par exemple. Tout d'abord, l'aspect ondulatoire, eh bien, une expérience qui illustre de manière spectaculaire le comportement ondulatoire de la lumière, c'est l'expérience des fentes du Hund, dont j'imagine que certains d'entre vous ont fait cette expérience. Donc on prend une source lumineuse, donc sur ce schéma-là, c'est un laser. Ici, c'est une fente éclairée par une source blanche, sur ce schéma, qui va venir éclairer deux fentes séparées par une distance A, et on va mesurer l'intensité lumineuse sur un écran en fonction de la position X sur cet écran. Et à une position X correspond deux trajectoires possibles pour l'onde lumineuse, soit elle passe par le trou du haut, soit elle passe par le trou du bas. Et dans une description ondulatoire, eh bien, ces deux trajectoires vont être associées un déphasage, une phase différente pour l'onde lumineuse, qui va dépendre de la position X. Et soit cette phase est identique pour les deux chemins, on a alors interférence constructive, ça correspond aux franges lumineuses ici, soit au contraire, il y a un déphasage de pi, on a une interférence destructive, et on a une frange noire. Et ça, on peut le voir. Ici, c'est la figure d'interférence. On voit les alternances de franges lumineuses et de franges noires. Et si jamais on occulte une fente, forçant l'onde lumineuse à passer par un seul trou ici, eh bien, on voit disparaître cette figure d'interférence qui montre bien qu'il faut passer par les deux chemins pour voir apparaître ces interférences constructives ou destructives. Alors, maintenant, pour faire apparaître cette dualité onde-corpuscule, eh bien, on peut réaliser cette expérience non plus avec une source de lumière classique qui va émettre, au sens des corpuscules, des photons par paquet, mais on sait maintenant fabriquer, et je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet de l'exposé, mais on peut fabriquer des sources qui génèrent maintenant des photons un par un. Donc ils sont capables de émettre un corpuscule de lumière un par un, qu'on dirige ici vers ce qu'on appelle un biprisme de Fresnel. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails du fonctionnement de cet objet. Mais le biprisme de Fresnel permet de réaliser en fait l'analogue des deux fentes de Young ici. C'est-à-dire qu'il va créer, par réflexion dans le prisme, deux sources secondaires à partir d'une source élémentaire ici. Donc on va pouvoir reconstituer deux sources secondaires qui sont en phase l'une avec l'autre, qui vont émettre des photons un par un. Et on va mesurer ici l'intensité lumineuse grâce à cette caméra CCD qui a une résolution permettant de détecter les photons un par un. Alors, c'est ce qu'on voit sur ce film ici. Alors, vous voyez ici, si j'arrête le film, des tas de petits spots lumineux qui apparaissent. Ça, c'est la caméra qui détecte l'arrivée des photons un par un. Donc, chaque spot lumineux correspond à la détection d'un photon. Comme vous détectez ici des corpuscules, eh bien, chaque photon ne peut être détecté qu'à une position bien déterminée. Donc ici, 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 ici. Ici, on a déjà acquis quelques centaines de photons sur la caméra. Si on continue l'acquisition sur un temps plus long, eh bien vous voyez qu'en moyennant l'intensité lumineuse, la détection des photons sur un très très grand nombre de photons, eh bien on voit que l'intensité moyenne reproduit la figure d'interférence qu'on a vue précédemment. Donc ça veut dire que si je détecte les photons un par un, si je détecte un photon, je vais plutôt être dans une description corpusculaire. Donc je vais pouvoir, avec la caméra, simplement voir le photon à une position bien déterminée. En revanche, si je fais cette acquisition sur un très très grand nombre de photons, je vois réapparaître la figure d'interférence. Ça veut bien dire que le photon, bien que corpuscule, eh bien, emprunte tout de même les deux chemins et reproduit, photon par photon, cette figure d'interférence. Donc ces deux expériences, la première purement ondulatoire, la deuxième, a priori corpusculaire, mais si je moyenne sur un très très grand nombre de photons, révèle à nouveau le caractère ondulatoire, bien illustre bien le fait qu'en mécanique quantique, selon la manière de mesurer, selon la manière, l'expérience qu'on réalise, eh bien, la matière ou la lumière vont manifester soit un comportement ondulatoire, soit un comportement corpusculaire. Donc c'est ça qu'on va chercher à voir, à mettre en évidence, non pas sur la lumière, mais sur le transport du courant électrique dans les conducteurs. Alors avant de passer aux conducteurs, je voudrais juste vous illustrer le fait que cette dualité onde-corpuscule, elle se manifeste pour la lumière, mais aussi pour les corpuscules matériels. Et donc là, c'est en fait le même type d'expérience réalisée non pas avec des photons, mais avec des électrons. Donc les électrons sont générés ici par cette pointe. Donc en fait, on applique entre la pointe et le détecteur une très forte différence de potentiel, un fort champ électrique. qui va arracher les électrons de la pointe, qui vont être projetés vers le détecteur, et en, disons, jouant sur des champs électriques et magnétiques locaux, on peut dévier les trajectoires des électrons et définir à nouveau deux chemins possibles, soit les électrons passent à gauche de cette barre, soit à droite de cette barre, de manière à reconstituer à nouveau une interférence entre les deux chemins que peuvent suivre les électrons. Et là, c'est le même type d'expérience. On détecte les électrons un par un. En moyennant sur un très très grand nombre de détections d'électrons, on voit réapparaître cette alternance de franges brillantes et de franges sombres ici, qui caractérise la figure d'interférence. Donc ça se généralise ensuite, non pas à des particules élémentaires comme les électrons, mais à des molécules, ou des grosses molécules même, comme ce C60 ici, et ainsi de suite. Alors, à la fin de ce transparent-là, ce qui est clair, c'est que et la matière et la lumière peuvent manifester un comportement ondulatoire ou corpusculaire. Ce qu'il y a de particulier dans ces expériences-là, c'est que pour mettre en évidence la physique quantique, le côté ondulatoire, eh bien, on cherche plutôt à isoler ces corpuscules quantiques, donc les électrons ici, ou ces molécules dans ces expériences-là, à les isoler au maximum de leur environnement. Donc ici, les électrons, ils se propagent dans le vide. Maintenant, la question, et c'est la question à laquelle je vais répondre dans l'exposé, c'est le cas des électrons dans un solide, le cas du transport du courant est fondamentalement différent, parce que là, les électrons sont dans une matrice solide. Il y a plein d'ions qui sont présents, les électrons se propagent autour dans le solide cristallin, et donc ce n'est pas du tout clair de savoir si la mécanique quantique se manifeste encore dans un système beaucoup plus complexe dans lequel les électrons vont interagir avec tout leur environnement. Et c'est ça la question de l'électronique quantique. Est-ce qu'on peut encore voir ces effets pour des électrons non plus dans le vide, mais dans une matrice solide? Alors, la réponse, elle est en deux temps. Le premier temps, c'est les effets de physique quantique jouent en effet un rôle prépondérant pour la compréhension du transport électronique. Et ça, c'est tout simplement parce que la classification que vous connaissez entre, d'une part, les conducteurs et, d'autre part, les isolants, pour comprendre cette classification-là, il faut faire appel à la mécanique quantique. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est que à l'échelle atomique, c'est indispensable de prendre en compte la mécanique quantique. Et alors, je vais essayer de vous expliquer très schématiquement comment on comprend la différence entre un conducteur et un isolant, et ce sera utile par la suite, en utilisant la mécanique quantique, et en partant de l'atome. Alors, j'ai représenté là un atome. Donc, vous savez que dans un atome, les électrons, donc ils orbitent autour du noyau, mais la description quantique de ce mouvement-là vous dit qu'il va y avoir des niveaux d'énergie discrets que les électrons peuvent occuper dans l'atome. Et si je prends un électron et que je veux fabriquer l'état d'énergie le plus bas, l'état fondamental, eh bien, je vais placer l'électron dans le niveau d'énergie le plus bas que j'ai représenté ici. Ensuite, vous savez aussi, je pense, que les électrons sont des fermions et qu'il y a certaines règles pour remplir ces niveaux d'énergie lorsque on a plusieurs électrons. C'est-à-dire que je peux mettre a priori un seul électron par niveau d'énergie. Et si j'ai un deuxième électron, il va falloir le placer dans un état différent du premier électron qui occupe le niveau fondamental. Alors ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, je peux mettre deux électrons par niveau d'énergie, parce que chaque électron porte, en plus, comme information de quel niveau d'énergie il occupe, une autre information qui est, chaque électron porte un moment magnétique élémentaire qu'on appelle le spin. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du spin, d'ailleurs ça me donne l'occasion de vous dire que interrompez-moi à tout moment pour me poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc voilà, chaque électron est caractérisé par le spin, qui est un moment magnétique intrinsèque à l'électron, qui peut pointer dans deux directions, soit en haut, soit en bas. Donc en fait, la règle, c'est que je peux mettre par niveau d'énergie deux électrons, un de spin haut et un de spin bas. Donc ces deux électrons occupent le niveau d'énergie le plus bas. Le troisième va venir occuper ce niveau d'énergie au-dessus, parce que là, il n'y a plus de place à cet endroit-là, dans ce niveau-là. Ça, c'est pour un atome. Maintenant, on passe à deux atomes qu'on va faire interagir l'un avec l'autre pour fabriquer une molécule. Alors la manière dont ça va se passer, c'est que les électrons qui occupent ces niveaux d'énergie vont pouvoir passer d'un atome à l'autre. Il va y avoir ce qu'on appelle une hybridation de ces niveaux d'énergie. Donc les niveaux d'énergie atomique ou orbitale atomique vont devenir des orbitales moléculaires. Donc ces deux niveaux d'énergie vont fabriquer deux autres niveaux d'énergie pour la molécule qui sont légèrement séparés en énergie par rapport aux deux niveaux initiaux parce que eh bien, l'interaction des deux atomes entre eux déplace la position de ces niveaux d'énergie. Et donc c'est pareil, vous reconstituez maintenant un spectre de niveau d'énergie de la molécule à partir des atomes que vous allez remplir avec les électrons à disposition. Donc maintenant, au lieu de 3, il y en a 6. Et vous faites la même règle, vous en mettez 2 dans le niveau le plus bas, 2 dans le niveau ici et 2 dans le niveau suivant. Maintenant, ça c'est pour une molécule. Si je passe à un solide cristallin, j'ai plein d'atomes, un nombre macroscopique d'atomes. J'ai plein de niveaux d'énergie qui vont s'hybrider entre eux et qui vont fabriquer non pas ici deux niveaux d'énergie, mais ce qu'on appelle des bandes d'énergie. Donc j'ai plein de niveaux d'énergie ici, cette bande-là, c'est plein de niveaux d'énergie qui sont séparés par une toute petite distance. Donc ça, ça va donner naissance à cette bande d'énergie-là, ces niveaux-là à cette bande-là, et entre les deux, il y a un écart en énergie qui est plus grand, qu'on va appeler le gap entre ces deux bandes d'énergie. Et j'ai aussi un gap entre ces deux bandes-là. Maintenant, j'ai à nouveau ces niveaux d'énergie. Je fais les mêmes règles que précédemment. Je dois remplir ces niveaux d'énergie avec tous les électrons que j'ai à disposition, en partant des niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux les plus hauts. Et là, il va y avoir deux cas de figure qui vont se présenter. Soit le dernier niveau, soit le dernier électron occupe un niveau qui est situé au milieu de cette bande d'énergie, c'est ce qu'on va appeler un métal, soit le dernier électron occupe le dernier état occupé de cette bande-là, et c'est ce qu'on va appeler un isolant. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre métal et isolant ? Eh bien, vous savez qu'un métal, c'est un système dans lequel les électrons peuvent se déplacer librement. Ben, ça va être le cas ici, parce que se déplacer pour les électrons, ça va vouloir dire quitter l'état fondamental, leur déplacement, il va falloir donner un peu d'énergie au système. Et là, j'ai plein de niveaux vides pour les électrons qui peuvent passer de ces états occupés vers ces états vides. Donc c'est très facile dans un métal de mettre en mouvement les électrons parce que je n'ai pas d'énergie à fournir pour passer de là à là. En revanche, dans l'isolant, le dernier électron est là. Et donc pour mettre en mouvement les électrons de l'isolant, eh bien, il faut que je fournisse une énergie qui n'est pas du tout petite, qui est l'énergie qui correspond au gap pour faire passer cet électron de ce dernier niveau occupé vers ce premier niveau vide. Et donc on voit ainsi apparaître, grâce à la mécanique quantique et les niveaux d'énergie, la différence entre les métaux et les isolants. Donc tout ce discours-là sur ce transparent pour vous expliquer que la mécanique quantique est cruciale déjà pour comprendre ce qu'est un métal et ce qu'est un isolant. Mais alors une fois qu'on s'est donné un métal, qui est le cas ici, dans lequel on va pouvoir mettre en mouvement les électrons pour faire passer un courant électrique, et bien là en général c'est très décevant. Les électrons, le transport du courant électrique va être donné dans 99% des cas par des règles de mécanique classique. Alors je vous ai rappelé ici la règle qui permet de décrire le transport du courant électrique dans un conducteur, qu'on appelle la conductivité de Drude. Donc la conductivité, c'est ce qui va relier la densité de courant au champ électrique localement dans le conducteur. Et ça, ça fait apparaître le nombre d'électrons par unité de volume, et donc la masse des électrons, leur charge évidemment, et un certain temps tau, qui est le temps que va mettre un électron entre deux collisions dans le conducteur. Donc en fait, cette description-là, ce qu'elle suppose, c'est qu'il y a un champ électrique qui accélère les électrons. Les électrons se comportent comme des billes chargées, donc ils vont, comme des billes, se propager tout droit et puis subir un choc avec soit un défaut dans la structure cristalline, une impureté, soit des vibrations du réseau cristallin. À température finie, le cristal a des vibrations, qu'on appelle les phonons. Tout ça va introduire des défauts pour les électrons qui vont limiter, qui vont freiner le déplacement des électrons. Et ça, ça va résulter dans une conductivité ou une résistance. Donc la résistance va faire apparaître l'inverse de la conductivité et la géométrie du matériau. Ici, par exemple, la longueur du fil et la section du fil. Et quand on connaît tout ça, ben avec R, on forme la loi d'Ohm, U égale RI, et on sait en gros comment se comporte la majorité des conducteurs en caractérisant leur conductivité et leur géométrie. Donc ça, c'est vraiment la description classique. On comprend un métal par la mécanique quantique, mais une fois qu'on a un métal, on prend des billes chargées qui se comportent classiquement, et on est capable d'expliquer la résistance des matériaux et la loi d'Ohm qui régit les règles du transport du courant. Alors maintenant, là où ça va changer, c'est quand on va s'intéresser à des conducteurs qui ne sont pas macroscopiques, mais qu'on va qualifier de mésoscopiques, ou micro- ou nanoscopiques, c'est-à-dire si la dimension du conducteur va commencer à être de l'ordre du nanomètre, de quelques nanomètres, jusqu'à la centaine de nanomètres. Alors, c'est mésoscopique dans le sens où vous voyez que sur cette échelle-là, il y a encore un très 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 grand nombre d'atomes qui fabriquent le conducteur. Donc il ne s'agit pas d'étudier, comme dans les expériences de mécanique quantique fondamentale que j'essayais de vous présenter avant, la matière à son échelle la plus élémentaire, où on essaye d'isoler un atome, et puis on sait que ça se comporte de manière quantique. Ici, dans ces conducteurs, il y a encore un très 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 grand nombre d'atomes. Néanmoins, les dimensions vont être réduites, de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Et pour exacerber les effets quantiques, on va aussi se placer à très basse température, donc typiquement des températures de l'ordre du Kelvin ou en dessous. Alors, je vous ai montré ici quelques exemples de ces conducteurs quantiques. Donc, un qui a connu une célébrité, qui a été découvert récemment, et sa découverte a valu le prix Nobel en 2010 à ses découvreurs. Donc ça, c'est le graphène. Donc le graphène, c'est simplement un réseau d'atomes de carbone, mais qui est naturellement plan. C'est un conducteur qui est une couche atomique d'atomes de carbone. Donc c'est évidemment une dimension restreinte suivant l'axe perpendiculaire à la feuille de carbone, puisque c'est purement bidimensionnel. On a aussi un dérivé du graphène qui a en fait été découvert avant, mais qui est le nanotube de carbone. Ça, c'est, on prend une feuille de graphène, on l'enroule sur elle-même, ça fait un tube ici qui est le nanotube de carbone, ou bien même des conducteurs métalliques dont on arrive à ingénierer, à structurer les dimensions, de sorte que ici, cette pointe métallique est finalement réduite à quelques atomes d'épaisseur. Donc là, on a fabriqué des conducteurs de très très petites dimensions, donc typiquement nanométriques, ce qui veut dire que si on veut étudier et imager ces objets, il va falloir aussi avoir recours à des méthodes d'imagerie qui sont complètement différentes de l'imagerie usuelle, du microscope usuel, puisque un microscope, c'est basé sur la focalisation d'une onde lumineuse. Or, vous savez que, eh bien, on ne peut pas focaliser une onde sur une taille plus petite que la longueur d'onde associée à cette onde. Or, les longueurs d'onde optiques, c'est plusieurs centaines de nanomètres, donc ça va permettre d'imager des objets de la taille d'un micron. Mais si on veut chercher à imager des objets plus petits, eh bien, l'imagerie optique standard ne va plus pouvoir être utilisée. Donc en fait, alors, je ne vais pas parler de celle-là, mais ces images-là et là, c'est réalisé par un microscope électronique. Donc en fait, c'est un peu le même objet que celui que je vous ai montré ici. Donc on vient accélérer des électrons qui viennent frapper la surface à imager. Et ces électrons accélérés, eh bien, par la relation de De Broglie qu'on a vue là, vont avoir un comportement ondulatoire et on va pouvoir leur associer une longueur d'onde qui est beaucoup, beaucoup plus petite que la longueur d'onde de la lumière visible. Donc la lumière visible, 500-600 nanomètres. Ici, ces électrons vont avoir une longueur d'onde plus petite que le nanomètre, ce qui va permettre, en mesurant les électrons réfléchis par ces objets, eh bien, d'atteindre, en focalisant ces électrons, une résolution beaucoup plus petite que le micron et d'imager ainsi des structures, donc le nanotube de carbone. C'est quelques nanomètres d'épaisseur pour l'épaisseur donc de ces nanotubes. Donc voilà, ces objets nanométriques sont donc imagés avec d'autres types de méthodes, notamment la microscopie électronique, ce qui est une illustration de mise à profit de la dualité onde-corpuscule pour imager des nanostructures. Alors en fait, je vous ai montré ceux-là, qui sont des conducteurs quantiques très populaires. En fait, moi je vais parler d'un autre, qui est encore plus répandu, qu'on appelle le gaz d'électrons bidimensionnel. Alors, le gaz d'électrons bidimensionnel, je vais vous le présenter très succinctement. Alors, c'est fabriqué à partir de semi-conducteurs. Donc ici, l'arsenure de gallium, c'est un semi-conducteur. Donc on fait croître ici ce semi-conducteur d'arsenure de gallium suivant cette direction Z. Et puis à un moment, on interrompt la croissance de l'arsenure de gallium pour le remplacer par un autre semi-conducteur, et l'arsenure de gallium plus une certaine proportion d'aluminium. Et ces deux semi-conducteurs ont la propriété que leur structure cristalline est strictement identique. Donc ça veut dire que je vais pouvoir empiler l'arsenure de gallium plus aluminium sur l'arsenure de gallium sans créer aucun défaut dans la structure. Donc ça fabrique un cristal parfait. L'écart entre atomes de ce cristal est le même dans ces deux structures. Mais bien qu'ils aient des propriétés cristallines, une distance entre atomes identique, ils ont des propriétés électroniques très différentes. Alors en conséquence, la conséquence de ça, alors là je vais faire un saut et je vais vous demander de me croire, c'est que tous les électrons présents dans la surface vont préférentiellement non pas aller se mettre dans le volume de l'arsenure de gallium plus aluminium ou dans le volume de l'arsenure de gallium, mais vont chercher tous à se mettre dans l'interface entre les deux. Donc en fait, il y a ce qui s'appelle la différence de structure électronique, les propriétés électroniques différentes de ces deux matériaux vont créer ce qu'on appelle un puits de potentiel. Donc c'est représenté suivant l'axe OZ ici, c'est l'énergie potentielle en noir qui est tracée ici pour les électrons. Et donc tous les électrons vont vouloir envie, pour minimiser leur énergie, d'aller être piégés à l'interface entre ces deux conducteurs. Donc ça va naturellement fabriquer un conducteur plan, un peu comme le graphène, mais au lieu de l'avoir naturellement comme ça, on le fabrique en ingéniant cette structure d'arsenure de gallium plus arsenure de gallium plus aluminium. Alors, donc on a des électrons qui sont confinés ici à l'interface entre les deux structures, et il va falloir faire un contact électrique de ce gaz d'électrons bidimensionnel. Et ça, c'est le rôle joué par ces deux plots ici, qui sont un mélange d'or, de nickel et de germanium. Et en faisant, donc en fait, on dépose à la surface, donc ça, c'est une image optique de l'échantillon, donc ça, c'est typiquement 200 microns. On dépose ces plots qui sont un mélange d'or et de germanium, on chauffe, et ce mélange-là va venir diffuser à l'intérieur de l'arsenure de gallium plus aluminium pour aller venir faire un contact électrique avec le gaz d'électrons qui est enterré une centaine de nanomètres en dessous de la surface de l'échantillon. Donc c'est ces quatre plots-là, ça définit des contacts électriques qui vont permettre de brancher des fils et de faire passer du courant dans ce gaz d'électrons. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut dessiner une géométrie pour l'échantillon particulière en gravant cette structure. C'est-à-dire qu'on va venir retirer la matière, là par exemple. Je vais retirer tout l'aluminium, le gallium arsenic ici, ce qui va détruire localement le gaz d'électrons bidimensionnel et fabriquer ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez les bords ici de la structure qu'on a ici gravé, qui définit une espèce de papillon. Et ce papillon, c'est le plan conducteur d'électrons. En dehors, c'est complètement isolant. Donc vous voyez qu'on peut ainsi structurer des géométries d'échantillons un peu à volonté pour étudier des conducteurs, des géométries adaptables. Alors un petit mot pour vous décrire ça, ça c'est la machine qui sert à fabriquer ces échantillons. Ce qui est très important là-dedans, c'est que je vous ai dit que les électrons étaient piégés à l'interface entre les deux. Donc pour que ça marche bien, pour avoir vraiment un plan conducteur, il faut que l'interface entre les deux semi-conducteurs soit définie à l'échelle atomique près. Ce qui veut dire que cette croissance se fait en déposant les atomes couche atomique par couche atomique. Et puis on a une couche atomique complètement remplie, on arrête. Et on fait la croissance du deuxième matériau par-dessus, couche atomique par couche atomique. Donc ça veut dire qu'on sait fabriquer ce qu'on appelle des hétérostructures, deux semi-conducteurs différents, avec une précision atomique sur la résolution entre ces deux conducteurs différents. Donc voilà le type d'échantillon qu'on obtient. Et alors, ces échantillons, on peut regarder maintenant ce qui se passe au centre de l'échantillon. Donc là, ça va être non plus sur une échelle de 200 microns, mais j'ai fait un zoom ici sur une échelle de quelques microns. Donc là, à nouveau, vous reconnaissez ce type d'image différent de la précédente. Ce n'est plus une image optique, mais c'est une image avec un microscope électronique. Vous voyez à nouveau là les bords de la structure. Donc ici, j'ai le gaz d'électrons, et là, j'ai une partie isolante. Et vous voyez ces objets ici, ces pattes métalliques, qui sont déposées par-dessus le gaz d'électrons, et qui vont permettre maintenant de changer, par l'application de tension, de changer localement la géométrie du conducteur. Alors la manière dont ça marche, c'est la suivante. Déjà, selon la manière dont vous avez fabriqué cette structure, vous pouvez contrôler combien vous avez d'électrons par densité de surface, par unité de surface, donc c'est un conducteur plan, donc le nombre d'électrons, c'est un nombre d'électrons par unité de surface, et qui vaut typiquement, dans ces systèmes-là, de l'ordre de 10 puissance 15 électrons par mètre carré. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est un chiffre qui est en fait assez faible. Si vous imaginez que vous prenez un métal et que vous arrivez, en partant d'un métal, à isoler un plan métallique, donc une seule épaisseur atomique d'un votre métal préféré, du cuivre par exemple, eh bien la densité d'électrons que vous obtiendrez est beaucoup plus grande, de l'ordre de 10 puissance 19 électrons par mètre carré. Et ça, ça a une conséquence très importante, c'est que maintenant, quand vous déposez ces électrodes métalliques à la surface du gaz d'électrons, c'est ce qu'on appelle des grilles, et si vous appliquez une tension négative sur cette électrode métallique, vous pouvez voir ça comme une capacité. En changeant la différence de potentiel entre le gaz d'électron et la grille, vous allez changer la charge qui est présente dans le gaz d'électron. Vous pouvez le voir aussi en disant que si vous mettez une tension négative, vous allez repousser les électrons qui sont dans le gaz d'électron, et vous allez pouvoir localement définir une partie isolante si vous parvenez à repousser la totalité des électrons qui sont présents sous la grille. Alors là, c'est là où c'est très important d'en avoir peu, c'est que pour un système de gaz d'électrons bidimensionnel, en mettant une tension de l'ordre d'un volt, vous pouvez retirer tous les électrons qui sont présents sous la grille. Pour un métal, vous savez que Q égale CV, donc pour la même capacité, pour la même géométrie, pour retirer la même charge Q, il faut appliquer une tension qui sera 10 puissance 4 fois plus forte. Donc même si vous parvenez à faire un métal purement bidimensionnel, vous ne parviendrez pas à appliquer des tensions de manière à retirer complètement les électrons qui sont présents en dessous. Alors ça, c'est le principe, peut-être que vous reconnaissez ce dont je suis en train de parler, c'est le principe d'un transistor. Donc ici, vous pouvez imaginer que si vous cherchez à faire passer des électrons de cette partie-là jusqu'à cette partie-là, et que vous mettez une tension négative sur cette grille qui repousse complètement les électrons qui sont en dessous, donc qui définit une partie isolante ici, eh bien, le transport du courant sera interdit entre ces deux parties. Donc vous avez un courant électrique qui est contrôlé par la grille. C'est ce qu'on appelle un transistor à effet de champ. Et donc, en fait, vous allez voir que les échantillons qu'on étudie, finalement, c'est des échantillons triviaux. Vous les avez tous dans vos téléphones portables, dans vos ordinateurs. On ne fait rien d'autre qu'étudier les transistors à effet de champ. Mais alors, ce qu'on va voir, c'est que nos transistors à effet de champ, à basse température et en contrôlant particulièrement la géométrie de ces transistors, eh bien, ils fonctionnent dans un régime quantique, ce qui n'est pas encore ou marginalement le cas des transistors de vos téléphones portables. Alors, ce transistor quantique, eh bien, en fait, c'est cette partie-là que je vais décrire maintenant. Donc, vous voyez, ce sont ces deux électrodes ici en regard au-dessus de cette constriction, donc cette petite largeur du gaz d'électrons bidimensionnel. Donc, ça fait typiquement quelques microns. Et la distance entre les deux électrodes ici, c'est de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Et on va regarder ce qui se passe quand on met une tension négative sur ces électrodes. Alors, j'ai ici un schéma de la structure qui vous explique ce qui se passe. Donc on a ces fameux contacts dont je vous ai parlé précédemment. On fait passer un courant en appliquant une tension V à ce contact. Donc on cherche à faire passer un courant dans la structure. Et là, c'est les deux électrodes auxquelles j'applique une tension, donc ce qu'on appelle la tension de grille, que j'appelle VG. Alors ça, c'est des mesures, ce n'est pas nous qui les avons faites, ce sont des mesures historiques sur ce type d'échantillon, qu'on appelle un contact ponctuel quantique. Et alors le premier effet, c'est ce que je vous ai dit. Si on met une tension très négative, de l'ordre de moins 2 volts, eh bien, la conductance de ce système-là va vers zéro. Donc là, ça ne va pas tout à fait vers zéro, mais si on pousse plus loin, la conductance s'annule, ce qui veut dire que le courant, qui est G, la conductance fois la tension, s'annule aussi. Donc vous avez complètement annulé le courant en mettant une tension de grille négative, ça c'est l'effet transistor. Vous augmentez la tension de grille, le courant augmente, c'est toujours l'effet transistor. En revanche, il augmente d'une manière qui est assez particulière, c'est que la conductance fait des sauts quantifiés ici. Donc ça, c'est la trace de la mécanique quantique. Singulièrement, si vous remarquez que la hauteur de ces sauts, c'est 2e carré sur h. Donc en fait, quand on a h, la constante de Planck, et qu'on a e, la charge électrique, on peut fabriquer une unité de conductance, ou encore une unité de résistance, qui est l'inverse, qui est h sur 2e carré. Donc la mécanique quantique fabrique naturellement une échelle naturelle de résistance ou de conductance, et cette échelle se manifeste directement par cette quantification de la conductance. Alors je vais essayer de vous l'expliquer simplement, en utilisant des analogies avec l'optique et en regardant à nouveau le remplissage des niveaux d'énergie de ce gaz d'électrons bidimensionnel. Donc je vous en ai déjà parlé avant. On a plein d'atomes qui constituent ce gaz d'électrons bidimensionnel. Donc on a plein de niveaux d'énergie qui fabriquent un continuum de niveaux d'énergie qu'on appelle une bande d'énergie. On remplit ces niveaux d'énergie jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'électrons disponibles. Et le dernier électron qu'occupe le plus haut niveau d'énergie a une certaine énergie qu'on appelle epsilon F. Donc c'est son nom qui vient du physicien Fermi qui a permis de décrire ces phénomènes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Fermi. L'énergie de Fermi, ici, pour ces électrons se déplacent librement dans la structure. Donc c'est l'énergie cinétique. C'est 1/2 de mv². Ou encore, si vous remplacez mv par la quantité de mouvement que j'ai introduit précédemment, c'est p² sur 2m, pf² sur 2m. Donc ça, c'est l'énergie de l'électron le plus haut ici, le plus énergétique. On a vu la relation de De Broglie. Donc à cette impulsion, cette quantité de mouvement PF, on peut associer une longueur d'onde, qui est la longueur d'onde de cet électron-là, qu'on appelle la longueur d'onde de Fermi. Et dans ces systèmes-là, elle vaut typiquement 50 nanomètres. Donc ça va dépendre du système étudié, mais en gros, l'ordre de grandeur, c'est 50 nanomètres. Et vous voyez que ça, c'est la longueur d'onde de l'électron le plus énergétique, mais tous ceux en dessous, ils ont une vitesse plus petite, une quantité de mouvement plus petite, et donc une longueur d'onde plus grande. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on change la tension de grille ici ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient repousser les électrons qui sont situés sous la grille. Donc on définit une zone isolante ici, dans laquelle les électrons ne peuvent pas aller. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en fait, en changeant la tension de grille, on contrôle la largeur du conducteur suivant cette dimension ici, donc la largeur W, suivant cette dimension transverse à la propagation du courant. Et plus la tension de grille est négative, plus cette largeur est de plus en plus petite, jusqu'au moment où elle devient nulle lorsque vous avez mis des tensions trop fortes. Alors maintenant, on sait que les électrons ont une longueur d'onde, ils ont un comportement ondulatoire en mécanique quantique, et donc il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que la grille va imposer à la fonction d'onde, aux électrons, va interdire la présence des électrons ici, dans ces régions-là, donc elle va imposer à l'onde électronique de s'annuler sous la grille ou encore sur les bords de cette section transverse ici. Et alors là, pour une onde, vous avez deux cas possibles. Soit la largeur de cette section ici est plus petite que la longueur d'onde, que la demi-longueur d'onde des électrons. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucune solution pour cette onde qui permette d'annuler l'onde électronique sur les deux bords. Vous pouvez voir ça, peut-être vous avez vu la corde de Meld, la propagation, la vibration d'une corde qu'on attache à ces deux extrémités. Donc on impose à la vibration de s'annuler sur les deux bords. Ça donne des conditions aux limites pour l'onde de vibration. Et vous allez voir apparaître des modes de vibration dans la corde qui correspondent à soit la longueur de la corde, c'est la demi-longueur d'onde, soit c'est la longueur d'onde, soit c'est 3,5 fois la longueur d'onde, qui correspondent à une demi-oscillation, une oscillation complète, et ainsi de suite. Ici, vous voyez que si la largeur est trop petite, eh bien vous ne pouvez pas satisfaire ces conditions limites parce que la longueur d'onde électronique est trop grande pour s'annuler sur les deux bords. Ça, c'est le cas où on n'a pas de courant, les électrons ne peuvent pas passer d'un bord à l'autre parce que leur nature ondulatoire leur interdit de passer dans ce guide d'onde électronique. Puis on atteint ce plateau-là, et là on a une solution possible où la fonction d'onde s'annule sur les deux bords, c'est quand la largeur correspond à la demi-longueur d'onde de Fermi. Partant de ce point de vue-là, on continue à augmenter la largeur, et on atteint maintenant un régime où la longueur d'onde est égale à la longueur d'onde de Fermi. Dans ce cas-là, vous avez les électrons qui ont la longueur d'onde de Fermi qui vont pouvoir annuler la fonction d'onde sur les deux bords, ça c'est la fonction rouge, mais vous avez aussi les électrons qui ont une longueur d'onde plus grande qui vont pouvoir satisfaire cette condition aux limites, ça c'est la fonction bleue. Je continue à augmenter et j'ai maintenant trois solutions possibles. Donc on voit que quand on augmente la largeur de ce conducteur, on a ce qu'on appelle des modes, qui sont ici un seul mode, ici deux modes possibles, ici trois modes possibles, on a plus de solutions possibles pour l'onde électronique pour être transmise du côté gauche au côté droit. Et en fait, cette saut de conductance quantifiée, c'est chaque fois que vous autorisez un nouveau mode de la fonction d'onde électronique à être transmis de la gauche vers la droite. Donc chaque mode porte une quantité de courant qui est quantifiée, et donc on peut contrôler donc le courant par saut quantifié ici de valeur 2E2 sur H, chaque fois qu'on autorise un nouveau mode de la fonction d'onde électronique à être transmis de la gauche vers la droite. Alors maintenant, ce qui reste enfin à expliquer, c'est pourquoi est-ce que un saut ici correspond à cette valeur 2E2 sur H. Alors là, on peut encore essayer d'utiliser l'optique en regardant ce qui se passe quand on essaye de passer du courant de la droite vers la gauche. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que j'applique ici un potentiel V, ce qui veut dire que je donne aux électrons qui sont émis par ce contact de la droite vers la gauche une énergie potentielle moins EV. Donc en augmentant V, je diminue l'énergie des électrons. Donc vous voyez qu'ici, le dernier électron qu'occupe le niveau le plus énergétique, il est décalé de EV par rapport à celui du réservoir de gauche. Le contact de droite, il va émettre des électrons qui vont dans ce sens-là. Le contact de gauche, il émet des électrons qui vont dans ce sens-là. Donc tous ces électrons-là, là, tous ces niveaux qui sont occupés, ben, eux vont donner un courant dans ce sens-là, ceux-là vont donner un courant dans l'autre sens, mais les deux vont se compenser et vont s'annuler. Donc les seuls électrons qui vont contribuer au courant, c'est ceux qui sont émis dans cette frange EV, dans cette gamme d'énergie EV, qui vont se propager de cette direction-là vers cette direction-là. Maintenant, vous avez vu, certains d'entre vous, peut-être, ça dépend du... vous en êtes rendu en optique, mais que pour une onde lumineuse qui a une certaine dispersion en fréquence F, eh bien, on peut associer un train d'onde, qui est l'étalement du paquet d'ondes de cette onde lumineuse, qui va être relié à 1 sur delta F, la largeur spectrale de cette onde. Ici, vous voyez que j'ai des électrons qui occupent une dispersion d'énergie EV. Donc je peux associer, par la relation E égale HF, une largeur spectrale de cette source qui est EV sur H. Et donc ces électrons, dans une description ondulatoire, vont avoir une certaine largeur, un certain étalement temporel, qui est H sur EV. Donc je peux les voir comme des petits paquets d'ondes dont la largeur temporelle est H sur EV. Maintenant, on a vu, quand on a rempli les niveaux d'énergie atomique, que chaque état pouvait être occupé par un seul électron. Donc chacun de ces paquets d'ondes, je peux mettre cette source, elle ne peut mettre qu'un électron par chacun de ces paquets. Donc le courant électrique associé à ces paquets de largeur EV, ça va simplement être la charge E divisée par le temps tau qui sépare ces paquets. Donc ça va être E divisé par H sur EV, soit E2 sur H, V. Et donc la conductance naturelle de ce conducteur, de ce conducteur élémentaire, c'est E2 sur H. Donc on voit apparaître ici, par le fait qu'on peut mettre les électrons, un seul électron par niveau, plus le fait que les électrons se comportent comme une onde et ont une largeur spectrale EV, une échelle naturelle de conductance qui est E2 sur H. Alors c'est E2 sur H et pas 2 E2 sur H. Vous voyez apparaître ce qu'on a vu quand on a rempli notre atome élémentaire, c'est qu'en fait, pour chacun de ces états, je peux mettre 2 électrons pour les deux espèces de spin haut et bas, et donc j'ai en fait un facteur 2 ici, et une conductance qui vaut 2 E2 sur H fois V, et chaque mode porte cette conductance, et je vois apparaître ces sauts quantifiés de valeur 2 E2 sur H fois V. Alors, on voit donc, ça c'est la brique élémentaire du conducteur quantique, c'est celui qui transmet des modes électroniques et qui fait apparaître cette quantification de la conductance. Alors, en fait, je pense que le temps passe et je ne vais pas vous décrire ce transparent. Je vais juste vous donner l'esprit de ça. C'est qu'en fait, on peut aller plus loin et imager ces modes électroniques qui se propagent en mesurant la densité électronique correspondant au transport du courant de la gauche vers la droite. Et lorsqu'on transmet le premier mode, on peut en fait imager ici que la distribution suivant cette direction transverse des électrons, elle reproduit bien ce mode n égale 1 ici, qui a un lobe ici, mais que si je transmets maintenant le deuxième mode ici, je vois apparaître 2 lobes, et que si je transmets le troisième mode, je vois apparaître 3 lobes, ce qui correspond, à ici cette fonction verte ici qui fait apparaître 1, 2 et 3 lobes. Donc on peut vraiment imager ces modes, ce caractère ondulatoire de la fonction d'onde dans ces systèmes de gaz bidimensionnel d'électrons, ce qui illustre vraiment leur caractère ondulatoire. Alors maintenant, on peut chercher à aller plus loin et non pas avoir un guide d'onde, mais fabriquer vraiment un interféromètre électronique. Alors pour ça, il va falloir être capable, comme dans un interféromètre optique, de guider la propagation des électrons selon des trajectoires bien définies. Alors la manière de faire ça, et je vais vous expliquer ça de manière très classique, c'est d'appliquer un champ magnétique très fort, perpendiculaire au plan du gaz d'électrons, du gaz bidimensionnel d'électrons. Alors ça, vous avez dû voir qu'un électron qui a une certaine vitesse V dans le plan, auquel j'applique un champ magnétique perpendiculaire, eh bien, il va décrire un mouvement circulaire uniforme qu'on appelle le mouvement cyclotron. Donc tous les électrons, si je commence à appliquer un champ magnétique B, vont décrire ces orbites cyclotron, si bien que, ils ne vont plus pouvoir participer au transport du courant, si j'imagine que je cherche à faire passer du courant dans cette direction-là, les électrons sont piégés dans ces orbites cyclotron. Alors la situation va être différente lorsque je regarde ce qui se passe proche des bords de l'échantillon. Parce que là, les électrons vont chercher à décrire cette orbite cyclotron, mais néanmoins, ils sont confinés dans l'échantillon. Les électrons ne peuvent pas sortir de l'échantillon, et donc ils ne peuvent pas compléter leur orbite, si bien qu'ils vont être forcés de rebondir sur les bords et de décrire ces trajectoires qu'on appelle cycloïdes, où ils décrivent l'orbite cyclotron sous l'action du champ magnétique, puis le bord leur interdit de continuer ici, et la seule manière de poursuivre l'orbite, c'est de faire comme ça. Donc vous voyez que maintenant, ces électrons-là, sur le bord gauche, ont un mouvement qui est du bas vers le haut, ici, mais qui est opposé sur le bord droit. Eux, ceux du bord droit, ils subissent l'orbite dans le même sens de rotation, mais ils vont maintenant aller dans cette direction-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un transport chiral. Selon le bord de l'échantillon considéré, vous avez un transport d'électrons dans une direction ou dans une autre. Alors ça, ça nous permet, je vous ai montré qu'en gravant l'échantillon, on pouvait contrôler la nature des bords de l'échantillon qu'on étudie. Eh bien ça, ça va permettre de guider la propagation des électrons le long des bords. Alors, ben voilà, c'est ce qu'on fait. Et si on combine cette propagation guidée avec les deux électrodes dont je vous ai parlé, eh bien on peut à nouveau voir apparaître, lorsque les électrons sont parfaitement transmis, cette quantification de la conductance en unité de E2 sur H avec ce plateau qui est très fortement marqué. Et ici, lorsque la tension de grille est très négative, eh bien les électrons sont complètement repoussés par cette électrode. Et donc les électrons vont ici, en ce point-là, être complètement réfléchis ici sur le bord adjacent. En ce point-là, ils sont parfaitement transmis et restent sur le même bord. Ce qui va être intéressant, c'est d'étudier ce qui se passe en ce point intermédiaire. Vous voyez que la conductance vaut 1,5 de la valeur E2 sur H, qui correspond au transport parfait des électrons de la gauche vers la droite. Alors, si on a ce 1,5, ça veut dire qu'on n'a que la moitié du courant, ou encore qu'une fois sur deux, l'électron va être transmis de ce côté-là, et une fois sur deux, il va être réfléchi de ce côté-là. Alors ça, ça fabrique un des outils de l'optique, qui est un outil essentiel, qui est la lame semi-réfléchissante, qui permet, pour une onde lumineuse, eh bien, de définir deux chemins, soit les photons sont transmis, soit ils sont réfléchis par une lame semi-réfléchissante, eh bien, là, les électrons vont subir la même chose par ce contact ponctuel quantique. Et en associant ces éléments, la lame semi-réfléchissante avec la propagation guidée le long des bords, eh bien, on va fabriquer des interféromètres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Mark-Sender, qui est en fait un interféromètre plutôt plus simple que l'interféromètre de Michelson que vous devez peut-être avoir l'habitude de manipuler dans vos TP. Donc on a toujours les contacts qui permettent d'émettre des électrons, donc en les connectant à une source de tension. Donc les électrons se propagent maintenant le long des bords. Ici, j'ai un contact ponctuel quantique qui permet soit de réfléchir les électrons le long de ce bord-là, soit de les transmettre le long de ces bords-là. Il continue ici. Ici, j'ai un deuxième contact ponctuel quantique qui va recombiner les deux faisceaux électroniques et définir deux sorties ici et ici. Et si je mesure le courant en sortie, vous voyez que maintenant, j'ai deux chemins possibles, soit le chemin du haut, soit le chemin du bas pour les électrons. Et de la même manière que dans l'expérience des trous de Young, les photons interféraient entre les deux chemins possibles, eh bien ici, les électrons vont interférer entre le chemin du haut et le chemin du bas. Et si on mesure le courant électrique, donc à la différence de l'optique, on ne mesure plus l'intensité lumineuse, mais le courant électrique va faire apparaître ces franges d'interférence. Donc ici, on a interférence destructive, ici interférence constructive, maximum de courant. Si on change la différence de chemin entre ces deux bras ici. Alors la manière de le faire, c'est toujours avec les grilles métalliques, donc en appliquant une tension négative ici, je vais repousser les électrons qui sont sous la grille, donc au lieu de passer comme ça, ils vont légèrement allonger leur chemin pour éviter la grille, et en changeant continuellement cette tension ici, eh bien, je peux contrôler la différence de chemin optique entre les deux bras, et ainsi faire apparaître ces interférences très marquées sur le courant électrique en sortie. Donc là, vous voyez que dans ces systèmes-là, le courant électrique est complètement décrit par un comportement ondulatoire, et complètement, dans le sens où si vous regardez le contraste de cette figure d'interférence, bien, il est proche ici de 90%, et plus récemment, ces expériences ont pu être réalisées avec des contrastes de l'ordre de 98-99%, ce qui veut dire que vraiment, c'est plus du tout un comportement corpusculaire qui permet de décrire le transport du courant électrique, mais vraiment, complètement, il faut complètement basculer dans la description ondulatoire. Alors, maintenant, dans le temps qui reste, en gros un quart d'heure qui reste, je vais vous décrire plus précisément les expériences qu'on réalise, qui sont très proches de ça, mais où on cherche à aller un pas plus loin, en contrôlant non pas le courant, non pas en générant des courants continus, mais en faisant un petit peu l'analogue de l'expérience de l'optique que je vous ai montré au début, où la source émettait les photons un par un. Et donc on va chercher maintenant à regarder ce qui se passe dans un conducteur si on est capable d'émettre des électrons un par un qui vont donc manifester un comportement ondulatoire ensuite dans le conducteur. Alors pour ça, on utilise ce type d'échantillon qui correspond en fait sur la vraie image de l'échantillon à cette partie-là. Donc si vous voyez bien en fait le bord de l'échantillon ici est là. Donc là, on a un petit îlot du gaz bilionciel d'électrons qui fait typiquement quelques centaines de nanomètres comme taille caractéristique, et dont on peut contrôler le couplage, la manière dont les électrons ici sont couplés aux électrons là, par ces grilles ici qui contrôlent, comme on l'a vu précédemment dans le cadre du contact ponctuel quantique, la transmission des électrons, donc comme une lame semi-réfléchissante. On peut contrôler la transmission des ondes électroniques entre cette partie-là et cette partie-là. Alors, c'est ce que représentait sur cette vue d'artiste ici, ça c'est le contact ponctuel quantique, ça c'est la grille métallique ici qui recouvre la portion du gaz d'électrons qui est là, de la taille de quelques centaines de nanomètres. Alors, ça, cet îlot-là, c'est ce qu'on appelle une boîte quantique. Alors on appelle ça comme ça parce que bon, bah, ça a la géométrie d'une boîte, ça confine les électrons sur une dimension, sur une petite dimension. Et alors la manière la plus simple de voir ça, alors je m'excuse, ça c'est un zoom au microscope électronique de cette partie-là. La manière de comprendre cette boîte quantique, c'est vraiment de le voir comme un atome artificiel. En fait, dans un atome, l'existence de ces niveaux d'énergie discrets, on peut le relier au fait que l'électron, attiré par le noyau chargé, est confiné autour du noyau dans un espace de petite dimension. Donc dans le cadre de l'atome, c'est des dimensions, la dimension d'un atome, c'est plus petit que le nanomètre, c'est typiquement l'angström. À ces petites dimensions vont être associées des séparations entre les niveaux d'énergie qui sont très grandes, qui sont de l'ordre de l'électron-volt, de quelques électrons-volts. Ici, on a exactement pareil, les électrons sont confinés dans cette région de l'espace, qui est beaucoup plus grande. Au lieu d'un angström, c'est quelques centaines de nanomètres. On va quand même avoir des niveaux d'énergie discrets, mais qui vont être séparés par des énergies plus faibles, parce que l'échelle de taille caractéristique est plus grande. Donc c'est pour ça qu'on va, pour faire apparaître ces niveaux d'énergie, devoir se placer à plus basse température. Un atome à température ambiante, on voit déjà, les raies lumineuses atomiques manifestent déjà le caractère discret des niveaux d'énergie. Ici, pour les voir apparaître, il va falloir se placer à des températures de l'ordre de quelques dizaines de millikelvin. Donc c'est ce que j'ai représenté ici, vous avez ces niveaux d'énergie discrets. On a déjà vu comment les électrons remplissaient ces niveaux d'énergie. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire avec la grille ici, c'est, en changeant le potentiel appliqué sur la grille, eh bien, modifier les énergies des électrons qui sont sous la grille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va translater l'ensemble de ces niveaux d'énergie. Donc imaginez, je translate les niveaux d'énergie, donc il y a un électron qui va se retrouver là. Ici, j'ai représenté en continu les niveaux d'énergie des électrons qui sont dans cette partie-là. Donc cette partie-là, les électrons ne sont pas confinés, elle est de très très grande dimension, donc je peux négliger l'écart entre niveaux d'énergie. Donc là, j'ai vraiment les bandes d'énergie dont je vous ai parlé précédemment. Donc à nouveau, ces bandes d'énergie, les électrons vont venir les occuper jusqu'à un certain niveau, qu'on avait appelé l'énergie de Fermi tout à l'heure. Et là, ce qui va se passer, c'est que avant que j'applique le potentiel, cet électron-là ne peut pas passer ici, parce que ces niveaux sont déjà occupés, sont déjà pleins, il y a déjà des électrons qui occupent ces niveaux. Mais maintenant, si je translate l'échelle de niveau d'énergie, eh bien, maintenant, j'ai là un électron qui peut accéder à des niveaux vides. Et si je contrôle précisément cette translation du potentiel, ben, je peux m'arranger pour qu'un seul niveau d'énergie passe au-dessus ici de l'énergie maximum des électrons dans ce qu'on appelle le réservoir, et un seul électron va être émis de la source vers le réservoir. Donc on peut ainsi, grâce à cette boîte quantique, contrôler le transfert des charges, et donc le courant électrique, à l'échelle d'un électron par un électron. Alors on peut aussi en fait contrôler le temps typique d'émission, ici, en changeant la manière dont ces niveaux d'énergie sont couplés, la probabilité qu'un électron a de sortir, en contrôlant cette barrière d'énergie. Alors en fait, ça c'est précisément cette grille qui contrôle eh bien, à quel point il est facile pour les électrons de sortir, auquel cas ils vont sortir sur un temps très court. Et si au contraire je mets une tension très négative, j'isole plus cette boîte, eh bien, les électrons vont sortir sur un temps beaucoup plus long. Alors c'est ce qu'on voit, on mesure le courant électrique généré par cette source. Alors ok, je vais vous demander d'oublier cette partie-là pour l'instant. Et on voit un pic de courant sur un certain temps taux caractéristique ici qui vaut typiquement de l'ordre de 1 nanoseconde. Donc ça c'est un pic de courant électrique. Pour mesurer ça, on est obligé moyenner le courant sur un très 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 grand nombre de réalisations de la source. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on déclenche l'émission d'un électron, puis on ramène la source dans son état initial, on redéclenche l'émission d'un deuxième électron, et ainsi de suite. En fait, on fait ça jusqu'à de l'ordre de 10 puissance 9 électrons qui sont émis. On moyenne toutes les détections de ces 10 puissance 9 électrons pour faire émerger le courant électrique correspondant à ces émissions successives d'électrons un par un, parce qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, détecter un électron unique. Le courant associé est trop faible pour pouvoir le détecter. Donc il faut répéter cette expérience un très très grand nombre de fois. Alors si on fait ça, on voit apparaître un courant qui décroît exponentiellement ici. Et si je mesure la charge moyenne de ce courant, donc j'intègre le courant pour en déduire la charge, eh bien elle est bien quantifiée, on retrouve la charge élémentaire, ce qui montre que en fait, ben, cette enveloppe de courant elle est constituée à chaque fois de l'émission d'un seul corpuscule, d'une seule charge élémentaire, de charge E. Alors en fait, ce processus-là qui correspond à un courant opposé, c'est le processus inverse, c'est quand je ramène la boîte dans son état initial, elle va chercher à absorber un électron du réservoir vers la boîte. Donc ça correspond à un défaut de courant qu'on appelle encore un trou. Donc il y a un courant électronique qui est compensé par un courant électronique négatif qui est l'absorption d'un électron par la boîte, ce qui explique ces deux valeurs du courant distinctes. Alors, maintenant, je vous ai dit qu'on pouvait contrôler le couplage de la boîte quantique vers le réservoir. Donc ça se manifeste par le temps typique d'émission qu'on peut contrôler complètement à volonté, en passant là de quelques de l'ordre de la nanoseconde à ici de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. Vous voyez que le temps d'émission d'électrons devient beaucoup plus loin, beaucoup plus long ici. Ok, donc cette source-là, elle permet de générer les électrons un par un. Donc maintenant, je vais vous montrer une expérience d'interférence d'électrons, mais où les électrons sont émis un par un dans le conducteur à l'aide de cette source. Alors, je vais passer ça. D'abord, un petit interlude dans le petit temps qui reste pour vous montrer quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Donc cette source d'électrons, comment est-ce qu'on la fabrique? Donc vous avez déjà vu les échantillons, la partie active de l'échantillon ici au microscope électronique. Donc ça, c'est l'échelle de l'ordre du micron. Ensuite, pour manipuler l'échantillon, il faut quand même qu'il soit d'une taille plus grande. Donc c'est là où vous avez cette image optique, donc sur 2 mm, vous avez les fameux plots dont je vous avais parlé avant, qui permettent de contacter la structure avec des fils et de la relier à, des fils macroscopiques. Donc c'est ce qu'on voit ici, l'échantillon il est là, il est placé dans cette cavité-là, il est collé ici. Vous voyez ici des pistes qui permettent d'appliquer les pulses de tension qui génèrent les émissions d'électrons un par un. Et je ne sais pas si vous voyez des petits fils ici, il y a des fils microniques qui permettent de connecter ces pistes à ces plots ici de soudure. Donc on vient souder des microfils avec une machine spéciale qui permet donc d'aller contacter ces échantillons. Donc là ensuite vous avez des câbles coaxiaux, peut-être vous avez manipulé des câbles BNC, donc ça c'est des câbles coaxiaux un peu du genre des câbles BNC mais qui permettent de monter à des fréquences plus élevées pour contrôler les pulses sur des temps encore plus courts. Donc voilà. Ça, il faut l'étudier à très basse température, donc on place ça dans un réfrigérateur, donc ça c'est une image du réfrigérateur. Donc l'échantillon, en fait, il est placé ici, il est accroché là, et là vous avez les étages du réfrigérateur, qu'on appelle le réfrigérateur à dilution, donc je ne vais pas décrire son fonctionnement, mais ça permet d'atteindre des températures de l'ordre de 20 mK, donc 10 000 fois plus froid typiquement que la température ambiante, avec des échelles successives, donc plus on monte ici, on passe de 20 mK, 100 mK, 800 mK, et puis plus on remonte, plus c'est chaud. Évidemment, pour atteindre ces températures très basses, il faut isoler cette partie-là du reste de la pièce qui est à 300 Kelvin, la température ambiante. Donc on ne fait pas l'expérience dans ces conditions-là. On vient enfermer tout ça dans, ici, ces enceintes qui permettent de faire le vide à l'intérieur et d'isoler le réfrigérateur à dilution du reste de l'environnement. Donc en fait, là, vous voyez le gradient de température qui se prolonge quand on monte dans le réfrigérateur jusqu'à la température ambiante, jusqu'à 20 mK pour la partie la plus basse. Donc à la fin, quand l'expérience tourne, ça ressemble à ça. Et puis en haut, il y a toute la connectique, tous les câbles qui sont connectés pour mesurer ou pour générer les tensions qu'on cherche pour déclencher les émissions d'électrons uniques. Alors, je vais terminer en 5 minutes, je pense, donc ça va me faire dépasser de 2 minutes, sur une expérience d'interférence avec des électrons uniques qui est un petit peu différente de l'expérience des Fan-Jung dont je vous ai parlé précédemment. Alors pour cette expérience, on a besoin simplement d'une lame semi-réfléchissante, qui est ici, donc elle est représentée schématiquement, d'une source qui émet des corpuscules un par un, donc des électrons ou des photons, je vais vous parler aussi d'analogue de cette expérience avec des photons, et donc on a deux bras d'entrée pour cette lame semi-réfléchissante, on a deux sources qui vont émettre des particules élémentaires qui vont entrer en collision sur cette lame semi-réfléchissante. Et on va mesurer en sortie les corrélations, donc je vais vous en parler après, entre les détections, les événements de détection par ces deux détecteurs placés en sortie. Et ce qu'on peut contrôler, c'est le délai d'émission entre ces deux sources, de manière à ce que les deux corpuscules arrivent simultanément sur la lame, ou au contraire, décalés l'un par rapport à l'autre. Alors d'abord, cette expérience elle a été faite avec des photons, C'est une expérience dite de Hongou-Mandel pour les premières personnes qui l'ont faite dans le cadre de l'optique. Alors, c'est ça le schéma de l'expérience, c'est un peu compliqué. On a ici un élément non linéaire. En fait, l'idée de ce cristal-là, c'est qu'il permet de générer des paires de photons. Donc, naturellement, au lieu d'avoir des photons un par un, vous allez générer des photons deux par deux. Donc, il y en a un qui part par là et l'autre qui part par là. Vous placez ces deux miroirs-là de manière à recombiner les deux photons sur cette lame semi-réfléchissante. Alors, dans cette expérience-là, on ne contrôle pas tellement les temps d'émission des photons. Ils sont émis simultanément, mais donc on peut contrôler leur arrivée simultanée sur la lame séparatrice en décalant la position de la lame séparatrice ici. Puis on vient mesurer ici les détections de photons par ces deux détecteurs, un petit peu dans le même esprit que la caméra CCD que j'ai montrée en début de l'exposé. Et on va mesurer quand est-ce que... on a quatre cas de figure possibles. On a une lame semi-réfléchissante, donc si vous imaginez un photon qui arrive sur la lame, il a une chance sur deux de partir à gauche ou une chance sur deux de partir à droite. Si vous avez deux photons, vous avez maintenant trois possibilités. Soit les deux photons vont à gauche, ça arrive avec une probabilité 1 quart normalement. Soit les deux photons vont à droite, ça arrive aussi avec une probabilité 1 quart. Soit les deux photons vont de deux côtés séparément, et ça va avec une probabilité 1,5. Donc de temps en temps, vous devez mesurer, ça c'est quand ce processus-là se produit, ces deux détecteurs doivent cliquer, donc détecter, deux photons simultanément lorsque ce processus se produit. En revanche, quand ils sont tous les deux du même côté, ils ne cliquent pas parce que lui, il ne voit rien alors que lui, il voit quelque chose. Alors, ce que les Hongou-Mandel ont observé dans cette expérience, c'est que si les deux photons sont désynchronisés, eh bien, vous avez de temps en temps des clics. Donc, vous avez le comportement des billes classiques, mais pour les photons. Donc là, c'est vraiment la lumière qui se comporte purement comme un corpuscule, dans le sens où, de temps en temps, les deux photons font ça, de temps en temps, ils font ça, et de temps en temps, ils font ça. Mais s'ils arrivent tous les deux en même temps, et bien là, il y a un effet d'interférence quantique qui se produit, et vous n'avez plus jamais le cas là où les deux photons vont dans deux bras distincts. Et donc ces deux détecteurs ne cliquent plus jamais simultanément. Vous voyez une suppression ici du taux de détection coïncidente entre ces deux détecteurs. Et ça correspond à l'ajustement de la position de la lame semi-réfléchissante de manière à avoir l'arrivée synchronisée des photons sur cette lame. Alors en fait, ce qui se passe, et alors là, je vais vous le dire très schématiquement, c'est à nouveau un effet d'interférence. Donc si on parle d'effet d'interférence, ça veut dire qu'il y a deux chemins possibles et qu'on a interférence entre deux chemins. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle ici d'interférence à deux particules parce que ces deux chemins impliquent deux photons. Et en fait, les deux chemins, il faut considérer le cas où les deux photons sortent dans deux bras distincts. Vous avez en fait deux possibilités pour faire ça. Soit le photon de gauche va à droite et le photon de droite va à gauche. Soit au contraire, le photon de gauche va à gauche et le photon de droite va à droite. Ça définit deux chemins pour ce processus. Ces deux chemins vont interférer, soit constructivement, soit destructivement. Alors il se trouve que dans le cas des photons, c'est une interférence destructive, ça annule la probabilité de ce processus, et c'est relié au caractère bosonique des photons. Donc on ne voit plus du tout cet effet-là. Les fermions, au contraire, les électrons sont des fermions, et donc à l'inverse, ils vont manifester le comportement inverse. Ils vont toujours sortir dans les deux bras distincts, ils ne vont jamais sortir deux à deux. Alors pour les fermions, c'est plus facile à comprendre, vous pouvez à nouveau le voir comme la conséquence du principe de Pauli. Je ne peux pas mettre deux fermions dans le même état, donc s'ils devaient sortir tous les deux ensemble du même côté de la lame, ils seraient obligés d'être tous les deux dans le même état, ce qui est interdit. Donc les électrons, au contraire, ne vont jamais faire tous les deux comme ça, ils vont tout le temps faire tous les deux comme ça ou tous les deux comme ça. Donc c'est le processus inverse. Alors nous, on a fait cette expérience avec deux sources d'électrons uniques qui émettent les électrons un par un. On peut contrôler le temps d'arrivée. Donc nous, on est capable de synchroniser, de contrôler précisément le temps d'arrivée des électrons sur la lame semi-réfléchissante et ainsi synchroniser ou désynchroniser les deux sources. Alors il faut faire attention parce qu'on mesure quelque chose de différent par rapport à la manip en optique. On ne mesure pas les taux de coïncidence entre cette sortie et cette sortie. Ce qu'on mesure, c'est la fluctuation du nombre de particules dans cette sortie-là. Donc à nouveau, si on avait des corpuscules classiques, on a un quart de fois deux corpuscules dans le même bras, un quart de fois zéro corpuscule dans le même bras, et une fois sur deux, un corpuscule dans chaque bras. Donc si je regarde que j'ai un appareil qui me permet de compter le nombre de corpuscules en sortie, de temps en temps je vois zéro, de temps en temps je vois un, de temps en temps je vois deux. Donc j'ai une fluctuation du nombre de corpuscules en sortie. Ici, il se trouve que c'est des corpuscules chargés, des électrons, donc à cette fluctuation de nombre de corpuscules correspond une fluctuation du courant électrique. Donc on ne mesure plus dans cette expérience le courant électrique moyen, mais la fluctuation du courant. Et ce qu'on observe, c'est que quand on synchronise les deux sources, ici, eh bien, le courant, les fluctuations du courant sont supprimées, à nouveau par cet effet d'interférence à deux particules. Alors vous voyez ici que nous, on est capable de régler, je vous ai montré avant, le temps d'émission des électrons, ou encore la taille des paquets d'ondes électroniques, leur taille temporelle. Vous avez vu les pulses de courant qui étaient soit très courts, soit plus longs. Eh bien, on voit que si je fais des pulses de courant plus longs, eh bien, la taille de cette suppression du courant s'élargit ici. Si je fais un fit exponentiel de cette décroissance-là, eh bien, j'ai un temps de décroissance qui passe de 75 picosecondes pour des électrons très courts à 140 picosecondes pour la trace noire, pour des électrons plus longs. Vous voyez aussi que le contraste de cet effet d'interférence n'est pas parfait et qu'il est, il décroît progressivement quand j'augmente la taille des électrons que j'envoie. Et j'en parlerai brièvement dans la conclusion qui va arriver d'ici une trentaine de secondes. Alors, vous voyez aussi que si je décale temporellement les deux électrons, je retrouve les fluctuations de corpuscules classiques, donc les probabilités un quart d'en avoir 0, un quart d'en avoir 2, et un demi d'en avoir 1. Alors, je vais arriver à ma conclusion. Je vais sauter ça. Pour vous dire que... alors, j'essaie de vous montrer ici que... lorsqu'on s'intéresse au transport du courant dans les nanostructures, et donc je vous ai montré aussi comment on fabriquait ces nanostructures, donc les technologies modernes de fabrication des semi-conducteurs permettent de fabriquer des conducteurs aux échelles nanométriques, et que naturellement, à ces échelles-là, eh bien, on ne va plus pouvoir considérer les électrons comme des corpuscules classiques, mais il va falloir vraiment faire une description quantique et prendre en compte des effets ondulatoires. Et en particulier, j'ai essayé de jouer au maximum sur les analogies avec l'optique. Elles sont particulièrement pertinentes parce que lorsque on rentre dans ce régime quantique, eh bien en fait, le transport du courant se comprend plutôt comme la propagation d'une onde lumineuse avec des effets d'interférence à une ou deux particules. Donc si on veut comprendre les conducteurs à ces échelles-là, il faut avoir recours à la physique quantique. Alors, ce qu'on voit tout juste à la fin de l'expérience, à la fin de cette dernière expérience, c'est qu'en fait, il y a aussi des différences très importantes. Et en particulier, la suppression de ce contraste, de cet effet d'interférence, elle est liée à une différence fondamentale, entre les électrons et les photons, c'est que les photons n'interagissent pas du tout avec leur environnement, alors que les électrons sont chargés, et donc il va y avoir l'interaction de Coulomb, qui va coupler ces électrons au reste de tous les électrons présents dans le système. Et ça, ces effets d'interaction vont considérablement atténuer les effets d'interférence, et ça introduit ce qu'on appelle de la décohérence quantique, qui supprime cet effet-là. Donc il va falloir comprendre aussi, et c'est ce qu'on étudie, comprendre ces effets de décohérence dans ces systèmes-là. Je conclurai juste en vous disant que cette manip-là, elle a un intérêt assez fondamental, parce que je vous ai dit qu'il fallait, pour que cet effet d'interférence se manifeste, que les deux électrons arrivent simultanément sur la lame. Donc en fait, cet effet d'interférence à deux particules, ce qu'il sonde, c'est le recouvrement entre les deux états. À quel point l'état de l'électron 1 ressemble à l'état de l'électron 2. Et en fait, cette manière, en quelque sorte, de faire un comparateur d'états quantiques, de regarder à quel point un état ressemble à un autre, c'est une manière maintenant utilisée en optique ou en électronique pour faire de l'imagerie quantique d'état. Donc à l'aide de ces systèmes-là, on peut en fait, et c'est ce qu'on fait dans le laboratoire, et je ne vais pas vous le détailler, mais en fait, dans ce dispositif, imager, reconstituer la fonction d'onde électronique, donc qui caractérise complètement l'état quantique d'un électron, se propageant dans un conducteur électrique. Donc on peut imager les fonctions d'onde des électrons dans les conducteurs électriques. Voilà, je vais conclure là-dessus. Et vous remercie beaucoup pour votre présence et votre attention. Merci.
Merci beaucoup, Gwendal, pour ces explications très claires sur des phénomènes complexes.
J'espère, merci.
Vous avez certainement des questions.
Je vous ai épuisé. N'hésitez pas.
Pas de questions, alors je vais en poser une pour lancer la discussion. Sur les applications, j'imagine que ces dispositifs mésoscopiques ont des applications et puis éventuellement permettent aussi peut-être, est-ce que ça permet des tests fondamentaux de la mécanique quantique comme on peut en faire en optique ?
Quelle excellente question. Alors absolument, en fait, il y a tout à fait les deux volets qui sont présents, et nous, on est plutôt du côté, ces expériences-là sont plutôt du côté tests fondamentaux de la mécanique quantique. Donc en fait, Nous, ce qu'on cherche, donc c'est déjà à montrer, ce que j'ai essayé de vous montrer, que il fallait prendre en compte les effets de physique quantique pour comprendre le transport d'électrons dans un conducteur. Et on cherche évidemment, du coup, à se placer dans les conditions qui optimisent ou qui maximisent ces effets. Donc très basse température, échantillon très pur. Donc échantillon très pur, ça c'est facile à fabriquer. Très basse température, je ne vais pas vous demander de placer vos téléphones à 20 millikelvin pour voir le comportement quantique des électrons dans vos transistors. Donc ça limite un peu les applications directes de ce type d'expérience. En revanche, les questions qui sont compliquées, c'est ce que j'ai présenté au début, c'est que maintenant, on maîtrise très bien la mécanique quantique et on sait bien la faire apparaître et la comprendre sur des objets isolés. Donc typiquement l'optique quantique ou contrôler les atomes un par un, ça va permettre de faire des tests de physique quantique sur des états, sur des systèmes élémentaires. Les questions plus ouvertes, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant dans des systèmes complexes, en forte interaction, où la matière interagit fortement avec son environnement, donc les électrons entre eux, ce qu'on appelle éventuellement les systèmes corrélés ou fortement corrélés, dans lesquels ces interactions jouent un rôle fort. Là, comment on passe d'une description optique qui néglige les interactions à, au contraire, un régime d'interaction forte, c'est la manière dont la mécanique quantique se manifeste dans ces systèmes-là, c'est beaucoup plus complexe. Donc ça permet de tester ça. Après, ça c'est nos expériences, de manière plus large, la physique mésoscopique, et d'étudier l'émergence de la physique quantique à ces échelles-là, si ça a des applications, et dans les transistors qui atteignent maintenant des dimensions nanométriques, pour bien comprendre leur fonctionnement, il y a déjà des simulateurs quantiques qui mettent une dose de physique quantique pour comprendre comment un transistor, même à température ambiante, fonctionne. Il y a encore un dernier aspect, qui est à nouveau plus large que ce qu'on fait, mais ce qu'on appelle les technologies quantiques, c'est l'idée qu'on va chercher à exploiter les propriétés quantiques de la matière pour implémenter des nouvelles fonctionnalités. Donc vous avez sûrement entendu parler d'information quantique ou d'informatique quantique ou d'ordinateur quantique. Donc ça, c'est l'idée de coder ou de transmettre l'information de manière différente en utilisant les ressources de la physique quantique. Les systèmes que je vous ai présentés là ne sont pas idéaux pour faire ça, mais ils permettent de faire des tests. Et ensuite, par contre, il y a d'autres systèmes qui sont plus prometteurs et qui ressemblent à ça, qui appartiennent au même domaine général de physique, et qui permettront peut-être, ça avance doucement, mais de fabriquer un ordinateur quantique. Et là, c'est important de relier ça à ce qu'on appelle la physique de la matière condensée, où, encore une fois, là, on s'intéresse à l'émergence de la physique quantique dans une matrice solide, parce que, à nouveau, on sait que si on veut faire apparaître des propriétés quantiques, c'est plus simple de prendre des atomes un par un. Donc on pourrait se dire, je vais fabriquer un ordinateur en assemblant des atomes un par un et en contrôlant ces atomes un par un. On se rend compte assez vite que si on veut faire une logique complexe, avec plusieurs bits, donc l'équivalent de bits classiques, mais donc des bits quantiques, il va falloir un système très compliqué, et assembler les atomes un par un ne va pas être très pratique pour faire ça. Donc c'est pour ça que c'est important de se pencher sur ces systèmes plus complexes de matière condensée, pour essayer de préserver les propriétés quantiques le plus possible dans ces systèmes qui ressemblent à l'électronique standard, mais dans lesquels la mécanique quantique se manifeste quand même. Et donc on va pouvoir chercher à utiliser toute l'industrie semi-conductrice, qui est déjà très évoluée, pour fabriquer non plus des ordinateurs classiques, mais des ordinateurs quantiques. Donc c'est... Mais nous, alors les expériences que je vous ai montrées sont très loin de fabriquer un ordinateur quantique. Voilà pour la réponse à cette
question. Merci Gwendal. Alors, est-ce que ça... Il y a des questions qui émergent?
Merci.
Une question beaucoup plus précise, donc moins générale. Quand vous parliez des trains d'ondes, comment vous obteniez en fait la distance entre deux trains d'ondes et comment vous en déduisez après la conductance de la fente dans laquelle passent les électrons?
C'est une bonne question. Alors, ce qu'il y a, c'est... Ok. On a deux types de sources. Je vais faire une réponse que j'espère ne va pas être trop longue. Vous voyez qu'il faut distinguer la source que j'avais considérée au début, qui est la source continue. Donc je connecte mon conducteur quantique à une source de tension qui va générer un courant continu. Donc ça veut dire que si vous regardez le courant électrique, dans le temps, normalement, il ne varie pas. C'est constant. Il faut le distinguer de la source déclenchée qu'on réalise dans le laboratoire, où là, on est capable de séparer les émissions d'électrons les uns par rapport aux autres. Donc là, dans le deuxième exemple, c'est vraiment l'expérimentateur qui contrôle les temps d'émission, l'écart temporel qui sépare deux émissions. Dans l'autre cas, ce n'est pas contrôlé. Ce n'est pas contrôlé, et en fait, la source va chercher à émettre de manière continue le plus possible d'électrons sans violer le principe d'exclusion de Pauli, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas en mettre deux au même endroit. Et au même endroit, bah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut regarder quelle est la taille d'un électron. Et la taille d'un électron, quand on a une description ondulatoire, bah, c'est là où on va pouvoir chercher à faire l'analogie avec le modèle de train d'onde. Si je connais la distribution spectrale des électrons, et ça c'est contrôlé par la source, la différence de tension que j'applique génère des électrons dans une gamme d'énergie EV. Donc à cette énergie EV, je peux associer une fréquence ou une pulsation, enfin une pulsation H bar oméga, une fréquence HF. Donc il y a une largeur spectrale qui est H sur EV. Et c'est là où cette largeur spectrale définit l'extension temporelle du paquet d'ondes qui est... La largeur spectrale était EV sur H, et donc l'extension temporelle est H sur EV. Donc on va chercher à empiler les électrons au maximum, les uns après les autres, en ne pouvant pas en mettre plus d'un dans une séparation H sur EV. Et ça, naturellement, du coup, le E sur H sur EV vous donne E2 sur HV. Merci.
Sinon, au niveau de l'émission, quand vous voulez mettre un électron par électron, vous contrôlez au niveau du voltage, mais on arrive à faire quelque chose à nanoseconde ?
Alors, on arrive à faire quelque chose à nanoseconde, c'est pas facile. C'est un peu pour ça, je l'ai mentionné en disant que... je vais essayer de vous remontrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est vraiment un problème complètement technique, quoi. C'est-à-dire que... évidemment, l'émission d'électrons, elle est déclenchée par la translation de l'échelle des niveaux d'énergie. Donc si cette translation, elle se fait de manière très lente, eh bien, je ne vais pas pouvoir émettre un électron avec un temps d'émission bien défini. Parce que l'électron va être émis dans le temps de cette rampe de montée qui va prendre un certain temps. Donc pour être capable de faire ça, il faut être capable d'émettre des électrons, d'amener une tension qui passe de 0 à 1, mettons, sur un temps très court. Et donc ça dépend de votre capacité à générer des pulses, des impulsions électriques sur des temps très courts. Alors en général, là c'est vraiment technique, ça dépend de la manière dont vous propagez les impulsions électriques. Donc là on est plus du côté photon. À ces échelles de temps-là, les câbles, la propagation des tensions et des courants va suivre une propagation ondulatoire. Donc vous cherchez à faire passer une onde de tension ou une onde de courant qui va déclencher l'émission d'électrons. Et ça dépend à quel point votre milieu est large bande et va autoriser les échelles de temps très courtes ou les fréquences très élevées à bien se propager dans les câbles qui amènent ces tensions. Et donc là, par exemple, un câble BNC, ça permet pas de... Donc, voilà, nanoseconde, ça veut dire gigahertz. Donc il faut être capable d'amener des impulsions gigahertz dans le système. L'électronique BNC usuelle, elle est plutôt mégahertz. Donc il faut gagner en gros un ordre de grandeur par rapport à ça. Et ça, c'est le rôle de ces câbles-là. Voilà, ces câbles, ils sont très souples, ils sont très pratiques à utiliser. Mais néanmoins, ils propagent les impulsions gigahertz. Et si on regarde après ici, vous voyez des câbles coaxiaux aussi, là, qui remontent ici, là. Donc, de la même manière, ces câbles-là permettent de propager les impulsions gigahertz. Donc oui, on peut. Après, très honnêtement, l'impulsion que je représente schématiquement comme ce truc, ce carré parfait, elle est un petit peu déformée. Et si on regarde attentivement les pulses de courant qu'on génère, on retrouve la trace de ces déformations de l'excitation qu'on amène.
Encore une ou deux questions ?
Alors moi je me demandais en quoi le fait de baisser la température permettait d'augmenter les effets quantiques ?
Ah, c'est une bonne question. Alors il y a plein de réponses à cette question. La première, c'est... Il y a plein de réponses à cette... il y a plein de réponses premièrement. Si on regarde l'émission, donc l'aspect niveau d'énergie discret, donc une des manifestations de la physique quantique, c'est par exemple la boîte quantique, l'idée que si vous confinez des électrons dans une dimension restreinte, eh bien vous ne pouvez plus considérer un continuum d'énergie, mais des niveaux discrets. Donc ça fait apparaître une échelle d'énergie qui est l'écart entre niveaux et qui est fonction de la taille de cette dimension discrète. Donc je vous ai dit, l'atome d'hydrogène, c'est l'électron-volt. Donc il faut comparer après à une échelle qui est fixée par la température. Donc en fait, une manière de voir la température, c'est que Ça veut dire que le système que vous étudiez est en contact avec son environnement, avec un réservoir, avec lequel il peut échanger de l'énergie. Et il peut l'échanger de l'énergie dans une certaine gamme d'énergie qui est fonction de la température et reliée par la constante de Boltzmann, KBT. Ça fixe l'échelle d'énergie typique qu'un système, ça fixe l'énergie typique qu'un système échange avec son environnement. Donc en gros, plus T est grand, plus le système échange une grande quantité d'énergie avec son environnement. Si cette échelle d'énergie KBT est plus grande que l'échelle de discrétisation des niveaux d'énergie que vous cherchez à voir, eh bien, vous n'y êtes plus sensible, parce que l'électron, par ses échanges, saute aléatoirement du niveau le plus bas au niveau le plus haut, et ainsi de suite. Et donc, ce que vous voyez, c'est un moyen-âge de cette échelle d'énergie qui reconstitue un spectre continu classique. Donc, vous avez fait disparaître cette échelle-là. Donc, si on prend l'atome d'hydrogène, c'est des électrons-volts. Donc, là, il faut prendre KBT à température ambiante. Et ça, donc, c'est un chiffre que vous pouvez garder en tête. C'est 25 millivolts, l'énergie thermique pour la température ambiante, 300 Kelvin, c'est 25 millivolts. Donc ça veut dire que des électronvolts, c'est beaucoup plus grand que 25 millivolts. Donc l'atome d'hydrogène, vous voyez naturellement ces raies d'énergie, les niveaux d'énergie discrets, sans avoir besoin de refroidir l'atome d'hydrogène. Ici, les échelles d'énergie, c'est la centaine de microvolts pour nous. Donc 25 millivolts, on est trop haut, il faut gagner un facteur 10 000 pour passer en dessous. Et là, on voit bien apparaître cette discrétisation. Ça veut dire que, encore une fois, là, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est lié aux dimensions. Si vous êtes capable de confiner un système sur une échelle atomique, ben vous verrez se manifester la physique quantique à température ambiante. Après, bon, il y a d'autres raisons. Par exemple, si on regarde, je vous ai parlé du fait qu'il fallait avoir un conducteur très pur. Je n'ai pas parlé de ça, mais si les électrons rebondissent trop, subissent trop de collisions, ben, on ne va plus voir apparaître les effets quantiques. Donc ça, c'est lié aux vibrations du réseau. Et ça, à nouveau, c'est favorisé par la température. Donc là, c'est les atomes du réseau cristallin qui échangent de l'énergie avec leur environnement, qui absorbent de l'énergie sur une échelle KT, et ça, ça les fait vibrer. Et ces vibrations vont introduire des défauts du réseau sur lesquels les électrons vont rentrer en collision et qui vont supprimer aussi ces effets-là. Donc il y a plein d'endroits en fait, où la température va jouer et qui vont tous converger vers le fait qu'il faut des températures de dizaines de millikelvin dans ces échantillons-là pour voir apparaître cette physique-là. Il y a une dernière, si j'ai bien compté.
Une dernière.
Donc c'est la suite de la question précédente. Pourquoi ne pas faire des boîtes quantiques plus petites pour ne pas baisser autant la température ?
C'est une très bonne question, comme toutes, hein, d'ailleurs. Absolument. Donc il y a une manière naturelle de faire ça, en fait. Je vous ai présenté rapidement les nanotubes de carbone. Donc alors, première réponse, plus la résolution va être petite, plus ça va être difficile. Donc typiquement, la résolution pour la fabrication de ces nanostructures, c'est de l'ordre, on sait confortablement faire des choses à l'ordre de 100 nanomètres. Donc si on veut aller plus bas, les techniques actuelles, alors d'ailleurs c'est miraculeux, l'industrie du semi-conducteur qui arrive à faire des transistors de l'ordre de 10 nanomètres, c'est une prouesse incroyable. Mais c'est relativement simple, c'est une simple grille, c'est pas des structures très évoluées. Si on veut faire un conducteur plus compliqué, bon, la résolution est, mettons, 50 nanomètres. Donc on peut pas faire beaucoup, on peut faire plus petit, mais on peut pas faire beaucoup, beaucoup plus petit. Après, l'autre possibilité, c'est de changer de système d'étude et d'utiliser, par exemple, les nanotubes de carbone. Donc là, on sait fabriquer des nanotubes de carbone. Naturellement, c'est 1D, le diamètre, c'est le nanomètre. Et la longueur, on peut la contrôler plus facilement. C'est plus facile de faire des petits nanotubes par rapport à ce qu'on fait. Et ben, les gens voient de la physique quantique avec des nanotubes de carbone sans avoir recours au réfrigérateur à dilution, simplement en utilisant un simple réfrigérateur à hélium liquide. Donc 4 Kelvin seulement. Alors ça a l'air rigolo, mais en fait ça change tout. Hein. Maintenant, la liquéfaction de l'hélium, c'est très très bien maîtrisé. Et d'ailleurs, la RMN, je ne vous souhaite pas d'aller dans un appareil de RMN, mais ça fait maintenant partie des appareils couramment utilisés, l'appareil qui génère le champ magnétique est refroidi à l'hélium liquide. Donc l'hélium liquide fait partie de notre environnement courant. Donc pouvoir faire des expériences de physique quantique à l'hélium liquide, c'est déjà très différent d'utiliser un réfrigérateur à dilution. À température ambiante, c'est vraiment les atomes individuels ou ce genre de choses-là qui permettent de voir ces effets-là.
Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Gwendal, pour cette conférence.